L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Et ce matin, on va donc s'intéresser, on le disait, à la construction de la nouvelle usine de la société Lefroy. Et pour en parler, nous sommes avec Christophe Bada, le président de la société. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, au lendemain de votre conférence de presse. On va parler de votre modèle actuel, on va parler également du projet sur la commune de Païta. Mais avant cela, beaucoup d'émotions lors de cette conférence de presse. Vous étiez avec vos salariés sur le site historique de Montravel, avec derrière vous encore les décombres et les dégâts qu'on peut voir de cette journée du 14 mai 2024. C'était presque un passage obligé pour pouvoir aller de l'avant, de retourner sur le site et d'annoncer ce projet d'usine.
Oui, ça nous semblait normal, même si c'est pas forcément une chose qu'on avait anticipé à ce point-là. On s'était dit que revenir sur le site, c'était important parce que c'était finalement notre point de départ et on n'efface pas 50 ans d'histoire industrielle comme ça. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça provoque une telle émotion. Il y a seulement quelques personnes dans la société qui sont retournées sur le site depuis l'incendie. Et là, il y avait tout le monde en une fois. Et bien évidemment, chacun a voulu voir là où se trouvait son bureau auparavant, là où il travaillait auparavant. Et c'est vrai que ça a dégagé beaucoup d'émotions. Mais quelque part, le fait de ressentir ces émotions-là à un moment un peu solennel, où on annonce publiquement ce que nous on fait depuis en fait plusieurs mois, la décision de reconstruire, j'espère que ça aura aidé tous les gens qui ont eu cette émotion à se dire qu'ils revenaient sur le site, mais pour une bonne raison. C'est en tout cas l'impression qu'on a eue après la conférence de presse en reparlant avec tout le monde.
Alors, Lefroy a vu le jour en 1943, destruction de son outil industriel en une nuit. Comment on fait pour se relever, avoir envie d'aller de nouveau de l'avant quand on se sépare de 80% de ses salariés, qu'on enregistre une perte de comptable de 2,4 milliards, on le disait avec Léana Colombo tout à l'heure. Comment on croit encore à l'avenir et on veut encore investir ?
Parfois, quand les chocs sont tellement soudains et tellement violents, peut-être qu'on a une sorte de soupape de sécurité dans notre tête et heureusement, on ne s'en rend pas compte. On est atteint, on est choqué, mais on n'arrive pas à mettre notre émotion à la dimension de ce qu'on vit. Ça nous rend peut-être un petit peu inconscient, temporairement. C'est peut-être pour ça que moi, j'ai entendu dès le 14 mai, bien que je n'ai rejoint la société qu'en février 2025, mais j'ai entendu dès le 14 mai, on va reconstruire. Je l'ai entendu tout de suite. Simplement, il y a une longue phase qui s'est enclenchée, une phase de survie, tout simplement. Au début, on n'avait pas trop d'idées sur ce qu'il fallait faire. Toutes les équipes qui étaient là ont dû prendre des décisions d'urgence. La direction générale a immédiatement tenté de contacter des usines dans la zone Pacifique pour faire nos propres produits. Avec beaucoup de retours négatifs, parce qu'on ne rentre pas dans une usine qui n'est pas la sienne comme cela. Toutes ces usines, elles existaient avant nous, elles avaient leur propre production, elles n'avaient pas vraiment de raison de changer tout leur processus industriel, de nous mettre des étiquetages spécifiques, d'utiliser nos propres recettes, ce qui veut dire changer leur flux logistique, parce qu'il a fallu qu'ils achètent nos propres matières premières et pas les leurs, parce que pour nous, c'était très important que les produits aient exactement le même goût, qu'ils soient fabriqués de la même façon. Donc ça a été très long, très difficile. Finalement, il y a des produits qui ont manqué, mais qui sont revenus. Et puis, pendant cette période-là, il faut aussi faire une petite introspection. Il faut se dire, on est conscient qu'il y a moins de consommateurs en Calédonie qu'il n'y en avait à une époque. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer tout cela ? Et puis, il faut aussi bien se rendre compte qu'un projet de cette ampleur, même si on a dû en diminuer la taille pour le rendre plus raisonnable, plus économique, eh bien, un projet de cette ampleur, on n'est pas en capacité de le faire tout seul. Donc il a fallu qu'on explique notre modèle, il a fallu qu'on montre qu'il était temporaire, et il a fallu qu'on se tourne vers les élus pour obtenir de l'aide. Et il faut les remercier aujourd'hui, parce que sans les élus du Congrès qui ont voté un texte en juin, qui a créé une case juridique pour nous, et sans le travail acharné du gouvernement qui a été porté par Christopher Gigès depuis le premier jour, pour étudier ce dossier et évaluer les engagements de reconstruction qu'on prenait avant d'accorder les exonérations, eh bien on n'aurait pas été en mesure de reconstruire, on n'aurait pas été en mesure d'assumer publiquement cette volonté de reconstruction avec un budget, un calendrier et des étapes à franchir.
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, ce modèle de transition, il n'existe pas. Vous ne rentrez pas dans les cases, vous ne faites pas de la production locale, vous ne faites pas de l'importation non plus totalement, puisque vous construisez en gros dans des usines offshore.
C'est ça. Alors, ce n'est pas un modèle offshore, c'est un modèle de survie industrielle, mais la réglementation, elle est créée en fonction du tissu existant. Et elle a vocation à le faire fonctionner de manière harmonieuse. Quand on subit une destruction totale en une seule journée ou en une seule nuit, et qu'on essaye, dans des délais très courts, de retrouver un modèle productif en se basant sur des sites qui existent ailleurs, par la force des choses, la case n'existe pas pour vous. Et nous nous sommes retrouvés, à notre corps défendant, à avoir des produits qu'on a réussi à faire rentrer après de nombreux efforts, de nombreuses négociations, en les payant plus cher, parce que nos volumes de production, en fait, il faut y faire face, sont tout petits en Nouvelle-Calédonie. Donc quand on s'adresse à des usines qui n'ont pas trop envie qu'on rentre chez elles et qu'on envoie nos propres équipes superviser la production, c'est-à-dire que vous avez des gens de la société Lefroy qui expliquent à des Australiens comment fabriquer de la bière aujourd'hui. C'est pas neutre, ils n'aiment pas trop. Ils ont bien voulu nous accueillir, et d'ailleurs on s'enrichit mutuellement de conseils, d'informations, mais c'est pas évident du tout à faire. Donc il faut faire tout ce processus-là, et puis reconnaître qu'on a besoin d'aide, et remercier quand on la reçoit.
Donc concrètement, vous fabriquez en dehors, donc ça vous coûte plus cher. Ensuite, il faut pouvoir faire venir ces produits en Nouvelle-Calédonie. La TGC aussi a augmenté pour vous, puisque le cas de figure change un petit peu. Mais vous avez bénéficié d'un certain nombre d'exonérations, notamment de droits de douane. Ça, c'était pour vous essentiel pour la survie de l'entreprise?
Oui, parce que ce modèle temporaire, c'est un modèle de survie, il est pas rentable. Et un modèle qui n'est pas rentable et pas souhaitable, il est pas pérenne. Donc on s'est retrouvé à payer deux fois plus de droits de douane, tout simplement parce que les produits qu'on importait, ils avaient déjà la valeur ajoutée industrielle, donc ils sont nécessairement à un prix plus élevé. Auparavant, on n'importait que des matières premières, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et le reste de la valeur ajoutée, il était apporté localement. Donc on se retrouvait à payer deux fois plus de droits de douane par bouteille, par canette, c'est très lourd. Et en plus, comme on est réglementairement parlant sorti de la case de la production locale, eh bien, il y a des produits qui étaient à 11% de TGC qui sont passés à 22%. Donc, des produits qui se sont retrouvés deux fois plus taxés. Or, on est sur un marché concurrentiel. Le prix nous est imposé par le marché. On ne choisit pas du niveau de nos prix. Il n'y a pas beaucoup de marchés qui ont ce niveau d'intensité concurrentielle en canille. Il y en a d'autres, mais le nôtre en est un. Vous avez trois acteurs très importants. Vous avez les importateurs, les distributeurs, qui sont les maîtres dans le royaume des jus de fruits, des eaux notamment. Vous avez les producteurs locaux en matière de bière. Notre concurrent est très, très, très bien placé dans ce domaine. Et puis nous, qui avons une très bonne place sur le secteur des colas. Mais chacun fait de son mieux dans son secteur, mais essaye aussi de rentrer dans celui des autres. Et ça crée une intensité concurrentielle tout à fait intéressante qui pousse à innover, à faire des choses.
Donc, tout ça pour dire que ce modèle n'est pas rentable, Christophe Bada, pourquoi avoir continué et pas avoir simplement fait une pause? Il fallait être présent sur le marché. C'est important de ne pas disparaître pendant de longs mois.
Oui, parce que le marché de la boisson, c'est un marché de l'instantanéité. Si vous avez envie de changer votre voiture, d'ailleurs les concessionnaires ont été durement impactés, j'invite chacun à ne pas garder un véhicule qui ne marche pas bien et en changer. Mais si vous arrivez un matin et que vous êtes trompé de jour et que la concession est fermée, vous revenez le lendemain, il n'y a pas de problème. Quand vous avez soif, vous prenez la boisson que vous trouvez. Et si ce n'est pas une boisson de la société Lefroy, c'est définitivement perdu pour la société Lefroy. Et ensuite, vous prenez des habitudes de consommation avec tout simplement ce qu'il y a sur le marché. Donc si on disparaît pendant trop longtemps, on disparaît pour toujours.
Alors, on l'a vu hier, tous les employés étaient avec la marque Coca-Cola, en tout cas avec les casquettes et les t-shirts de la marque Coca-Cola. Vous avez le soutien de ce géant, c'est ce que vous avez affirmé. C'est essentiel aujourd'hui pour reconstruire une usine d'avoir ce soutien-là. Et il s'exprime comment d'ailleurs ce soutien? C'est un soutien juste moral, financier, logistique?
C'est une aventure assez incroyable qu'on a vécue quand on a été expliqué chez Coca-Cola ce qui s'est produit. Alors d'abord, les gens à qui on parlait étaient des gens très très hauts dans la hiérarchie de Coca-Cola. Certains avaient 25 ans de maison. Ils nous ont dit que ça s'était peut-être déjà produit, des usines Coca-Cola détruites, mais que eux, dans leur expérience de vie dans la société, en 25 ans, ils n'en avaient jamais connu. Donc ils ont été extrêmement marqués, extrêmement touchés par ça. La deuxième chose qu'ils nous ont rappelé, c'est qu'on est embouteilleur Coca-Cola depuis 1952 et que... notre franchiseur est un franchiseur qui a un produit très connu mondialement et donc c'est quelqu'un de très exigeant. Et donc on est audité par Coca-Cola depuis des dizaines d'années. Ils ne nous préviennent pas toujours quand ils viennent vérifier les processus industriels et la qualité des produits. Et de cela, il résulte des classements. Et à plusieurs reprises, la société Lefroy avait par le passé été classée en interne chez Coca dans le top 5 ou dans le top 10 de toute la région Pacifique, c'est-à-dire avec l'Australie, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, etc. Et ça, ils s'en souviennent. Donc une société qui a fait autant d'efforts sur la qualité pendant autant d'années, qui a maintenu son contrat pendant autant d'années, eh bien ça a pesé dans leur décision de continuer de nous accompagner. Et finalement, on a signé un nouveau contrat avec eux au mois de juillet, exactement comme ça se serait produit si l'incendie n'avait pas eu lieu.
Parmi les exigences de Coca-Cola, il y a la production au plus proche des consommateurs, c'est-à-dire que ce modèle d'importation n'est pas viable pour eux en termes aussi de, que ce soit de qualité ou de suivi, ça ne peut pas durer dans le temps.
Non, c'est très difficile de l'imaginer. Il y a des produits qui peuvent être fabriqués dans des usines uniques dans le monde. Si vous prenez par exemple une bouteille de ketchup, il y a une usine aux Pays-Bas qui en produit 1,8 million chaque jour et qui les distribue dans toute l'Europe. Ça pose pas de problème. Mais c'est un produit qui est très dense, qui est facile à transporter, qui se conserve pendant 15 mois et qui réagit peu. Les boissons, ça réagit beaucoup à la température, ça réagit beaucoup à la lumière. Et quand vous regardez l'univers Coca-Cola, il n'y a pas une usine qui produit du Coca-Cola. Il y en a 900 dans le monde. Coca-Cola, à cause des propriétés physico-chimiques des boissons, produit toujours, partout, au plus près du consommateur. Donc il n'est pas envisageable de continuer sur ce modèle-là.
Et donc hier, vous avez présenté votre projet de nouvelle usine. Vous ne restez pas sur le site de Moravel, vous partez à Païta. Pourquoi ce choix de changer, de délocaliser, entre guillemets ?
Il y a une raison administrative évidente, c'est qu'on a été sur ce site pendant très très longtemps. Et puis au fur et à mesure du temps, il se trouve que le PUD de la ville avait changé. Et historiquement, la ville n'avait pas destiné ce site à rester un site industriel. Donc si aujourd'hui on voulait reconstruire une industrie à cet endroit-là, que ce soit la nôtre ou une autre, eh bien on ne pourrait pas. Bon. Après, il y a une autre raison aussi, c'est que après 50 ans de développement industriel, le site était devenu un petit peu à l'étroit. On était un petit peu petit. Donc là, on a l'opportunité de reconstruire sur un terrain plus grand et on va retrouver la place dont on a besoin pour bien travailler.
C'est un site que vous possédez, hein, c'est un terrain qui appartient à la société Lefroy, donc ça aussi, ça a dû faciliter le choix. Je suppose que c'est un élément déterminant dans la prise de décision.
Oui, c'est un élément déterminant, et puis vous vous doutez bien que pour les gens qu'on va appeler sur la partie financement, c'est absolument essentiel de pouvoir dire que malgré les difficultés des dernières années, eh bien, le foncier il est déjà disponible. C'est critique pour reconstruire, et nous, on a la chance de l'avoir déjà.
Donc c'est un projet à 9 milliards. Depuis que vous êtes arrivé à la présidence, vous avez beaucoup raboté sur les dépenses, puisque pour construire le même type d'usine, il fallait à peu près 14 milliards, il me semble. Sur à quoi elle va ressembler, cette usine ? Est-ce que c'est une usine qui sera moins bien que celle que vous aviez précédemment ?
Alors en fait, elle va être beaucoup mieux. Elle va simplement être très très optimisée, parce qu'on a dû le faire, parce qu'on savait très bien que le coût de reconstruction à l'identique, ça ne fonctionnerait pas dans aucun scénario. Mais en fait, elle va être beaucoup mieux parce que bien que nous investissions par le passé à peu près 300 millions par an dans l'ancien site, on investissait en renouvellement des technologies qui existaient. Or, la science progresse, la technique progresse chaque jour, et on va avoir accès à des processus, à des équipements qui sont plus économes en énergie, qui sont plus économes en eau, qui sont plus économes en matières premières. On va avoir accès à des techniques qui se développent petit à petit, qui permettent de récupérer de la chaleur fatale. J'entendais M. Lefebvre à la télévision il y a quelques jours, il vient de commissionner une nouvelle unité de production, et eh bien il récupère des calories à un endroit de son usine et les amène à un autre endroit, ce qui évite de les produire une seconde fois. Eh bien, nous aussi, ça nous intéresse beaucoup, c'est un signe de modernité, et s'il y a des techniques qui permettent de l'adapter à nos processus, eh bien nous allons le faire aussi. Et tout ça, mis bout à bout, eh bien, c'est un site qui est plus économe et plus efficient.
Quel va être le financement ? C'est un financement privé à 100%. Est-ce que la part d'assurance, d'ailleurs, que vous avez pu toucher va rentrer en ligne de compte ? Comment ça va se passer ?
Alors, les assurances ne vont pas nous aider beaucoup sur ce point-là, parce que c'est depuis très longtemps très difficile d'assurer des industries en Nouvelle-Calédonie, et nous étions bloqués par ce qui s'appelle des limites contractuelles d'indemnisation. Donc on atteignait les limites contractuelles sur à peu près tous les sujets. Tant et si bien qu'à la fin... on recevra, tous les dossiers ne sont pas clos, mais on recevra peut-être 15% du montant total des destructions et des pertes. Et ces fonds-là, ils ont été destinés en priorité aux banques. On ne pouvait pas laisser courir des emprunts sur des matériels qui ont disparu. Et puis le reste a été absorbé par les pertes d'exploitation qui ont suivi l'incendie. Donc ça ne pourra pas nous aider. Par contre, on aura sans doute accès aux mécanismes de défiscalisation locales et nationales. Avec des questions budgétaires qui se posent déjà. Donc on verra quand on y sera. On a un budget existant qui repose sur des chiffres estimatifs, mais il faudra requalifier tout ça en fonction de la réalité financière et économique du moment. On sait que la défiscalisation nationale est un petit peu battue en brèche en ce moment à l'Assemblée nationale. L'Assemblée avait voté des textes permettant d'aider à la reconstruction de la CAUNI. Elle est en train de revenir en arrière. Pour nous, ça, c'est effectivement des éléments qui sont absolument déterminants. heureusement, quelque part, on n'a pas besoin de déposer le dossier aujourd'hui, sinon on serait sans doute très contraint. Peut-être que c'est une bonne chose pour nous de ne le déposer que l'année prochaine.
Alors hier, vous avez souhaité aussi tordre le cou à un certain nombre de rumeurs. On a entendu, lu parfois, que la société Lefroy avait un pactole amassé quelque part et qu'elle souhaitait, pourquoi pas, produire à l'extérieur du territoire, ouvrir des usines. On a entendu parler du Vanuatu, etc. Vous avez souhaité tordre le cou à ces rumeurs en présentant ce projet. C'était important aussi de montrer que vous souhaitez produire calédonien et embaucher des gens sur le territoire ?
Oui, parce que... toute transparence, c'est le seul métier qu'on sait faire. On pense qu'on sait bien le faire, mais on ne sait faire que ce métier-là. Et puis, on est confronté à des réalités économiques qui nous dépassent. Comme je vous le disais, s'il y a 900 usines coca dans le monde, c'est parce que c'est la meilleure manière de faire. C'est parce que c'est extrêmement difficile de transporter des grosses quantités d'eau. Ça prend beaucoup de place, ça coûte très cher. Ce sont des produits où la qualité doit être absolument parfaite. Donc vous ne pouvez pas les mettre sur des bateaux pendant 30 jours, 40 jours. Coca ne veut pas ça, a priori. Il a d'ailleurs fallu une autorisation exceptionnelle de la part du siège social de Coca pour que l'usine de Fidji puisse nous fabriquer nos produits. Sinon, ils ne les auraient pas exportés, ils n'ont pas le droit. Donc c'est dans cet univers-là qu'on réfléchit, mais grosso modo, on pense qu'on a un bon élan vers l'avant. Pour l'instant.
Vous parliez hier du soutien dont vous avez besoin, des institutions, des partenaires qui étaient regroupés aussi pour cette conférence de presse. En quoi un industriel a besoin d'un soutien et même, pourquoi pas, de la population quand il se lance dans ce type de projet ?
Alors, il y avait un besoin de créer la case réglementaire qui n'existait pas pour nous de manière temporaire. Et pour ça, il fallait qu'on prenne des engagements. Donc, c'est en ce sens-là que le gouvernement a évalué notre dossier avant de prendre sa décision. Après, pour un projet de cette nature, il est bien évident qu'il faut qu'il y ait une sorte d'appréciation de la part de gens qui vont bénéficier directement ou indirectement. Donc, à un moment donné, il faut lever sa tête de la planche à dessin et puis aller parler aux gens, aller expliquer ce qu'on fait, pourquoi on veut le faire, dans quel cadre on s'inscrit, quelle est notre vision, comment on veut travailler, et puis entendre les retours. Donc, il y en aura peut-être encore. Pour l'instant, ils sont assez positifs. C'est plutôt un message... qui est perçu comme étant porteur d'espoir dans une économie où il y a peu d'investissements de cette nature qui sont annoncés déjà. Peut-être que celui-là s'en est un, mais qu'il va y en avoir d'autres qui vont suivre.
Vous parliez de la case réglementaire. On le sait qu'il y a eu un recours devant le tribunal administratif de la part du syndicat des importateurs qui attaquait justement ces décisions du gouvernement et du Congrès. On attend la décision pour les prochains jours ?
Oui, on attend cette décision. Donc, en la matière, le mieux est de ne pas le commenter. Avant que la position soit prise. Simplement, il s'agit d'un autre texte que celui dont je viens de vous parler. Donc ça n'impactera pas le cadre réglementaire dans lequel nous sommes depuis le mois de septembre et dans lequel nous envisageons de poursuivre.
Donc la poursuite, justement, on le disait, ouverture en 2030 de cette nouvelle usine. Quel est le calendrier et combien de salariés vont pouvoir travailler ensuite à l'ouverture ?
Alors, notre calendrier, c'est de finir la planification industrielle et les études techniques d'ici 2026. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dès que j'aurai quitté votre studio, continuer à faire avec les sachants de la société sur ce sujet. Un projet de cette nature doit passer par des autorisations réglementaires assez lourdes. Il faut une autorisation d'exploiter, il faut un permis de construire, il faut des études environnementales, etc. Donc ça, c'est pour 2027, pour, si possible, obtenir ces permis. Et puis, les mécanismes de défiscalisation, ils sont liés à l'obtention de ces permis. Donc, même si on était en avance sur le plan financier, on ne pourrait pas le terminer avant l'obtention des permis. Donc, les deux processus vont se tenir en parallèle. Et c'est pour ça qu'on annonce une pause de la première pierre du chantier en 2028. Et ensuite, c'est un chantier d'une relative importance. Donc, on pense qu'il faudra 18 à 24 mois pour aller au bout.
Et ensuite, une centaine de salariés, un tout petit peu moins que ce qu'on retrouvait...
Alors déjà, il y aura à peu près 130 personnes en équivalent temps plein qui travailleront sur le chantier, sur sa durée. Et puis, il y aura entre 200 et 250 emplois directs et indirects concernés par notre activité. Avant de l'incendie, la société dépensait à peu près 2 milliards par an. En prestations de services, en achats locaux, de biens, de consommables, de matériel, etc. Rien que ça, c'est porteur d'environ une centaine d'emplois indirects. Et dans les calculs qu'on a faits, évidemment, on a pris des ratios, on a pris des abacs, on a regardé des études, comment ça se faisait, mais on n'a pas pris en compte, par exemple, parce que, en toute honnêteté, c'est très difficile à calculer, on n'a pas pris en compte les emplois induits, c'est-à-dire que les salaires qu'on va verser, ils déclenchent eux-mêmes des opérations au niveau de la consommation. Donc ça soutient le chiffre d'affaires d'autres entreprises. Donc les chiffres qu'on annonce ne prennent pas en compte cette partie induite, seulement la partie indirecte.
Merci beaucoup Christophe Bada d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la société Lefroy.
Je vous remercie.